Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va déjà mettre le téléphone en ne pas déranger et après, on va parler du sommaire de ce podcast. Alors dans cet épisode, nous allons parler de voyager gratuitement grâce au squat, de ceinture abdominale, ça sera la question de l'auditeur, et on va aussi parler du régime recommandé par un magazine pour prendre du poids. Avant de démarrer, comme d'habitude, je vous fais un petit récap de ce que j'ai publié sur le site ce dimanche, donc pour vous avant-hier. Donc avant-hier à 10h, comme tous les dimanches à 10h, sort un contenu sur mon site pour les plus fidèles, pour les plus acharnés, pour les plus passionnés, et ça s'appelle « Le sport en chambre ». Bon, en fait, c'est comment s'entraîner dans une chambre. L'idée derrière ça, c'était de proposer... l'idée m'est venue d'un moment, et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont lu, j'ai écrit un article. Vous savez que je parle peu de ma vie, et je parle peu... j'ai pas de story, tout ça. Mais parfois, sous forme d'article, je raconte des anecdotes de ma vie. Et là, cette idée d'entraînement dans une chambre m'est venue de cette anecdote, puisque je me rendais compte que beaucoup de personnes avaient ou du mal ou pas envie, ou ils savaient même pas que c'était possible, de s'entraîner dans une chambre. Voilà. Et bon, j'avais écrit ça parce que c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de m'entraîner, mais de pas être dans le lieu qu'il faut, quoi. Donc, c'est-à-dire, j'ai pas une salle, pas un banc, pas d'haltère, rien du tout à disposition. Et pourtant, j'avais quand même envie de faire un petit quelque chose pour m'exercer. Et donc, je me suis dit, on peut élargir ça parce que moi, l'anecdote que je racontais, c'était par rapport à une chambre dans un gîte. Mais effectivement, ça peut être aussi dans une chambre tout court, donc dans la chambre dans laquelle vous dormez actuellement. Peut-être qu'au pied du lit, c'est le seul endroit où vous pouvez un petit peu faire de l'exercice, et ça peut être intéressant de faire quelque chose qui fonctionne, quoi. Plutôt que juste des abdos ou trois pompes pour essayer de se maintenir en forme, d'essayer de faire quelque chose de plutôt cohérent. Donc en fait, c'est sur ça que je me suis basé. Mais également sur les personnes qui sont souvent itinérantes. Alors quand je dis itinérantes, c'est des personnes qui ont des jobs où ils vont à droite à gauche, par exemple, je sais pas moi, les commerciaux, ou même peu importe, hein, des gens qui naviguent pas mal à travers les chambres d'hôtel, les Airbnb, etc. Et je leur ai donné là comme ça au moins une fiche, un plan, quelque chose à suivre pour pas être livré à eux-mêmes quand ils ouvrent la porte de l'hôtel ou qu'ils ouvrent la porte de leur Airbnb et qu'ils savent pas quoi faire d'autre que se poser sur le canapé. Là, au moins, il y a un petit truc à faire. Il y a un petit entraînement. Alors, je l'ai entièrement filmé pour vous montrer. Donc, filmé dans une chambre, au pied d'un lit. Donc, exactement la même place, voire plus, si vous en avez plus. Parce que moi, c'est vraiment un tout petit espace que je vous ai montré là. Et donc, du coup, après, vous avez le programme en PDF avec toutes les notes et tout ça. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ça, le lien est dans les notes de l'émission. Ou, si vous écoutez le podcast là, vous avez déjà dû recevoir le mail, en fait, avec les notes. Donc, vous allez voir le mail du podcast dans votre boîte mail. Et vous aurez le lien pour accéder à toutes ces notes-là. Comme ça, ça vous évite, là, si vous êtes en train de faire autre chose, conduire ou quoi, sachez que dans votre boîte mail, logiquement, si vous êtes abonné à mes mails, puisque c'est quand même un peu essentiel, sinon... N'attendez pas de le recevoir si vous avez jamais mis votre email sur mon site, mais globalement, ceux qui l'ont fait doivent déjà avoir toutes les notes dans leur boîte email. Voilà. Bon, allez, on démarre avec le régime hypercalorique. Quel menu pour prendre du poids ? Moi, j'ai bien aimé cet article parce que ça montre un petit peu. Alors, bien aimé, ça veut pas dire que je le valide. Bien aimé, ça veut simplement dire que, je trouve que c'est intéressant d'en parler un petit peu parce que on parle énormément. Alors, surtout sur mon site, surtout dans mes contenus, de perte de poids, de régime hypocalorique. D'ailleurs, on en parlera même en fin d'émission, mais globalement, on en parle beaucoup parce que c'est plutôt un problème. Il n'y a pas une épidémie, si vous voulez, de maigreur sur Terre. Il y a plutôt une épidémie d'obésité. Et donc, ce sont les extrêmes, évidemment, mais il y a, avant de devenir obèse et devenir que ça devienne pathologiquement malsain, on va dire, il y a quand même une étape où on n'est pas forcément en forme, un peu trop de gras au bide et tout ça. Donc, globalement, les régimes ont plutôt tendance à être l'actualité chaude, etc. Et c'est normal, dans le monde dans lequel on vit, qui est ultra sédentarisé, qui est ultra confortable, à quasi tout point de vue. Voilà. Bref, dans cet article, en fait, ils se sont intéressés à autre chose qui s'appelle le régime hypercalorique. Alors, la source, c'est Cosmo, hein, c'est le magazine Cosmo, donc c'est de l'actualité grand public, hein. Ils parlent du régime hypercalorique. Alors bon, ils expliquent un petit peu pourquoi on aurait envie de prendre un petit peu de poids. Donc je peux aller voir, hein, et essayer de vous donner les raisons d'ailleurs. Ça peut être intéressant que vous ayez d'être dans la tête d'une personne qui voudrait prendre du poids. Alors pourquoi suivre un régime hypercalorique ? On pense souvent à tort que quand on suit un régime, c'est pour perdre du poids. Or, le régime hypercalorique, c'est tout l'inverse. Il s'agit d'un régime alimentaire qui consiste à prendre du poids en faisant la part belle aux aliments qui font grossir. Voilà, il existe des personnes qui ont un métabolisme rapide. Pour elles, il est difficile de prendre du poids. Il faut donc suivre un régime alimentaire censé apporter plus de calories que pour un repas classique, etc., etc. Et donc, ils disent, bon, il y a une première chose qui est bien. Ils disent, alors, la première erreur, c'est de ne pas manger burger frites. Et donc après, ils donnent un menu. Alors leur menu, moi je continue la citation, hein, régime hypercalorique, quel menu pour prendre du poids ? Donc au petit déjeuner, pour avoir un petit déjeuner hypercalorique, pour eux c'est du pain aux céréales, du beurre, une banane, un jus de fruits pressés, un café ou un thé. Après, c'est rapide puisque le déjeuner ou le dîner c'est la même chose pour eux. Enfin, on peut manger la même chose. Donc, en entrée, une part de quiche Lorraine, en plat du riz et de l'agneau, et en dessert du fromage. Et ils disent après, n'hésitez pas à faire des collations dans la journée, le matin et l'après-midi. Bon. Et ils disent de cumuler ça avec la muscu et que justement les experts d'Omios parle du temps d'entraînement de 1h30 échauffement compris. Ok. Bon, alors, moi, quelles sont les petites choses que j'avais à dire par rapport à ça ? La première chose, c'est que on va essayer de déconstruire un petit peu l'idée derrière le souhait de faire un régime hypercalorique. Donc, une personne veut faire un régime hypercalorique pour prendre du poids. Ok. Cette personne-là, si on parle avec elle, on lui dit « Bon, tu veux prendre du poids, mais tu veux prendre quoi comme poids ? Qu'est-ce qui te pose problème ?» La personne va dire « Ah, oh, ben peut-être pour prendre un petit peu de poitrine, ou pour prendre un petit peu de... pour bomber un petit peu mon fessier, ou je sais pas. » Et là, déjà, on se rend compte d'une chose, c'est qu'effectivement, la poitrine, donc prendre un petit peu de poitrine, pour les femmes, hein, je parle, ça va être effectivement un petit peu de gras. Mais par contre, si on veut bomber un peu son fessier avec du gras, c'est quand même le loto, la loterie, parce que selon les répartitions, selon les zones où vous stockez la graisse, ça peut donner quelque chose de pas super harmonieux. Donc du coup, on va lui dire, mais est-ce que tu préfères prendre du gras dans les fesses ou prendre du muscle dans les fesses ? Et on aura souvent une réponse qui sera... le mieux, ce serait de tonifier un petit peu. Et derrière le mot tonifier, il y a le mot musculation, hein, musculation ou muscle. Pas forcément musculation, mais muscle, quoi. Donc, ce sera plutôt de la masse musculaire qu'on voudrait ajouter sur les endroits qu'on juge minces et maigres. Ça marche pour les hommes aussi. Un homme qui se trouve trop mince aura rarement envie de prendre du poids sous forme de ventre et de graisse viscérale. Il préférera plutôt prendre du tour d'épaule, du tour de bras, du tour de pec, du tour de cuisse, etc. Donc là déjà on voit que derrière le souhait, il y aurait plutôt un désir de prendre de la masse musculaire. Et est-ce que ce petit déjeuner hypercalorique contient des aliments qui vont vous faire prendre de la masse musculaire ? Donc voilà, je vous laisse réfléchir, je répète le petit déjeuner, du pain aux céréales, du beurre, une banane, un jus de fruits pressés, un café ou du thé. Donc dans ce petit déjeuner, on a du pain, donc des glucides, du beurre, donc des graisses, une banane, donc des glucides, un jus de fruits pressés, donc des glucides, et un café ou un thé, donc un excitant, pour certains avec des polyphénols, d'autres moins, etc. Donc on manque cruellement de protéines déjà au petit déjeuner. Donc on construit pas de muscles avec du sucre ou du gras, ni avec du café ou du thé. Donc là déjà, il y a une petite carence si on souhaite. Alors si on souhaite prendre du poids, effectivement, il y a beaucoup de densité, il y a beaucoup de graisse, sucre. Donc oui, ça va vite. Mais il manque quand même quelque chose qui permet d'apporter aux muscles une raison de se reconstruire un petit peu plus fort, un petit peu plus gros. Ce sont les protéines, les acides aminés, quoi. Bon, pensez protéines. Donc moi, le petit déjeuner hypercalorique là, par exemple, je remplacerai le beurre par un petit morceau d'avocat. Le pain aux céréales, je prendrais plutôt un pain un peu plus noble, parce que pain aux céréales, ça veut pas dire grand chose, donc on essaierait plutôt de se tourner vers un pain. Je parle pour le grand public, hein, évidemment, il y a plein de gens qui consomment plus de pain aujourd'hui, ils vont être plutôt sur des flocons d'avoine, des choses comme ça, pour avoir leurs glucides, mais bon, une personne lambda comme ça qui démarre, qui veut continuer à manger son pain le matin, je lui recommanderais plutôt de se tourner vers un pain de sarrasin, ou un pain avec de la farine de camut ou d'épeautre, ou alors de seigle, pour essayer d'avoir des farines un tout petit peu plus nobles, et un petit peu plus, on va dire, qui apporte un petit peu plus de micronutriments et dont l'IG pourrait être un petit peu plus raisonnable que celui de la farine blanche. Alors quand on dit aux céréales, souvent ce qui est bien, c'est que quand il y a des céréales, les céréales, donc les graines, hein, ayant un IG plutôt faible, si dans votre pain vous avez, je sais pas, 10% de céréales et 90% de farine, effectivement ça va réduire un petit peu l'IG puisque vous n'avez pas 100% de farine, enfin 100% farine blanche, quoi. Bon, de toute façon il y a jamais 100% puisqu'il y a d'autres ingrédients, mais vous avez compris l'idée. Donc déjà, on va remplacer son pain par un pain de meilleure qualité. Donc le beurre, on le remplace par de l'avocat par exemple, ou alors si on veut avoir des protéines, on peut consommer des œufs entiers. Donc comme ça, au moins, on profite des bonnes graisses avec le jaune, mais il n'y a pas que des graisses, il y a aussi des protéines dans le jaune, hein. Mais on profite de ça et de la source de protéines globale de l'œuf. La banane, pourquoi pas, mais je tournerai plutôt les gens vers une source de fruits qui suivrait plutôt les saisons, c'est-à-dire que à un certain moment de l'année, on va manger des pommes, à un autre des oranges, à un autre, je sais pas, peu importe. En fait, on prend les fruits de saison. Le jus de fruits pressé, je suis pas fan. Parce que je vous en avais déjà parlé, le jus de... En plus, si on mange des fruits à côté, mais le jus de fruits pressé, c'est... Alors souvent, en plus, les gens enlèvent la pulpe, donc du coup, ça réduit encore la teneur en fibres du truc. Mais un jus de fruits pressé, si vous voulez un verre plein pour étancher votre soif, il va vous falloir trois fruits, quoi. Et là, au niveau du fructose, c'est pas forcément quelque chose qu'on cherche à avoir. Préférez rester sur de l'eau plate, hein, avec peut-être un peu de jus de citron non sucré, mais essayez plutôt de rester sur de l'eau plate. Quitte à augmenter légèrement, peut-être manger deux fruits entiers à la place, mais pas d'avoir fruits plus jus de fruits, quoi. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vais. Et on peut augmenter la densité énergétique, hein, parce que si vous ajoutez des œufs, vous pouvez facilement combler votre apport énergétique, ou en tout cas le gonfler un petit peu. Après, déjeuner ou dîner hypercalorique, alors il disait une entrée, donc une part de quiche lorraine, un plat à riz et de l'agneau, et en dessert du fromage. Donc je vous laisse 30 secondes pour voir la petite erreur qui se cache, en tout cas la petite problématique que moi je vois là-dedans. Donc je sais que beaucoup de personnes l'ont déjà trouvé, mais je vous la dis tout de suite. On est dans un monde où on veut réduire la viande, on dit on mange trop de protéines, etc. Là, on est sur une source de protéines à l'entrée. Donc la quiche lorraine, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas la recette de la quiche lorraine, il y a des œufs, il y a des lardons, donc deux sources de protéines déjà dans l'entrée, et certains mettent du fromage en plus dessus. Après, on va avoir de l'agneau en plat principal et en dessert du fromage. Donc on a trois sources de protéines différentes sur le même repas. Donc je trouve qu'il y a une espèce de dérèglement, puisque on n'en a pas du tout au petit déjeuner, on se retrouve à en avoir trois fois sur un repas. Et là, je trouve que c'est dommage, parce que les protéines dans une quiche lorraine, par exemple, on s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il y a des problématiques, et je vous dis qu'on mange souvent, que la personne lambda qui ne fait pas attention à sa diète mange souvent des doses de protéines assez élevées, parce que effectivement, des protéines, dès qu'il y a plat transformé, des œufs et tout, la personne ne s'en rend pas compte, donc elle va additionner avec de la viande sur le plat principal, et finalement avec un petit fromage blanc ou du fromage en dessert, la personne ne se rend pas compte qu'elle mange beaucoup de protéines, beaucoup. Et c'est pas non plus on parle pas d'une diète de bodybuilder, hein, mais elle ne sait pas qu'elle en mange autant, en tout cas, puisque c'est plutôt masqué. Donc là, donc la part de quiche lorraine, là c'est pareil, on peut facilement essayer d'augmenter un petit peu plutôt la densité du plat. Donc le riz et l'agneau, enfin moi je signe, hein. Le petit morceau de fromage, bon, On n'est pas obligé de prendre le petit morceau de fromage. On peut, si on aime ça, mais plutôt chercher à avoir, je sais pas, du chocolat noir, par exemple, du chocolat noir à 90% ou à 85%. Faut pas oublier que c'est pas dépourvu de calories. Le chocolat noir a des vertus, mais il a aussi une densité énergétique. Donc, de plutôt profiter un petit peu de quelque chose qu'on n'a pas consommé dans la journée. Donc, un petit peu de chocolat noir en dessert ou alors un petit peu plus tard en bouquinant ou quoi avant d'aller se coucher. J'en sais rien. Et en entrée, là, de plutôt se tourner vers une salade. Alors, une salade, vous pouvez, si vous voulez ajouter de la densité un peu énergétique, vous pouvez, bah déjà, il y a la vinaigrette. Donc, c'est de l'huile, hein. Il y a de l'huile d'olive, de l'huile de colza, ou je sais pas, enfin, normalement, c'est ou de l'huile de noix, peut-être, pour certains. Ça se conserve pas très longtemps. Et on peut rajouter, comme je vous disais, des olives entières. On peut également rajouter l'autre moitié d'avocat. Donc, si vous en avez pris une moitié le matin, vous pouvez mettre la deuxième moitié le soir. Mais il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez ajouter pour densifier un petit peu. Vous pouvez ajouter des morceaux d'ananas, par exemple. Vous pouvez... Qu'est-ce que j'avais une idée, mais là, je l'ai plus en tête. Bref. Mais on évite quand même de multiplier les sources de protéines comme ça, plutôt rester sur une monosource. Mieux vaut l'étaler sur la journée plutôt que d'avoir des doses massives. Et donc, bon, moi, c'est comme ça que je vois plus les choses, parce que là, souvent, en fait, la problématique des gens qui ont du mal à prendre du poids, c'est qu'ils n'ont jamais surveillé leur alimentation non plus. C'est souvent des gens qui, génétiquement, sont nés, entre guillemets, sous une bonne étoile. Alors, je ne sais pas si ce sont les plus adaptés au mode de vie moderne, mais en tout cas, c'est rarement des gens qui disent « je peux manger ce que je veux et je grossis pas », et quand on regarde leur diète, c'est pas des gens qui mangent sainement, en fait. C'est quand, en fait, quand les gens peuvent manger ce qu'ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la pâte à tartiner, du fast-food, des pizzas, des pâtes riches le soir avec du gruyère par-dessus. Enfin bon, bref, ils ont jamais eu besoin de faire attention, donc ils n'ont aucune raison de manger sainement. Donc, de les maintenir dans une alimentation, et souvent ces gens-là d'ailleurs, c'est en arrêtant de manger mal et en se mettant à manger mieux, plus sainement, qu'ils arrivent à prendre un petit peu de poids. Comme si leur corps, dès que c'était des aliments de mauvaise qualité, ils en voulaient pas, ils les assimilaient pas, mais je pense que quand même à terme, ils vont avoir des problématiques au niveau de la santé. Bon, peut-être pas à 20 ans, peut-être pas à 30 ans, peut-être que ça démarrera à 40, peut-être que ça sera leur peau, leur visage, leur teint qui va un petit peu se détériorer avant leur tour de taille, mais en tout cas, c'est un petit peu comme mettre le mauvais carburant dans un véhicule. Alors au début, si on fait il y a toujours un petit peu de bon et le véhicule va tourner, mais au bout d'un moment, le moteur va péter, quoi. Bon, c'est un petit peu la même chose ici. L'organisme c'est un peu comme une machine hyper intelligente, sauf qu'au bout d'un moment, bon, elle peut en avoir ras-le-bol, puisqu'il faut pas oublier que chaque année qui passe va faire que le fonctionnement va être un petit peu. Il va falloir les réglages vont être de plus en plus fins, un peu comme un véhicule de collection aujourd'hui. Je sais pas si vous avez déjà roulé ou si vous avez déjà eu un véhicule un petit peu de collection, un Youngtimer ou peu importe, mais vous voyez bien qu'il faut être plus précautionneux sur les temps de chauffe, sur les réglages s'il y a encore de la carburation, si vous restez coincé dans les bouchons, ça dérègle le carbu avec les vibrations et tout ça. Enfin bon, bref, voilà, il y a un certain soin à apporter à tout ce qui commence à avancer en âge, et je pense que l'organisme, c'est la même chose. Donc, peut-être que les réglages chez les personnes qui ont du mal à prendre du poids répondent mal à l'alimentation malsaine, j'aime pas trop le terme, mais on va dire industrielle, ultra transformée, classique et normale en France, en tout cas, et de plutôt se tourner vers des aliments sains qui seront plus assimilables, parce qu'en fait, il y a pas mal de problématiques encore à détailler par rapport à ça, mais il y a aussi le fait que ces gens pensent manger suffisamment, alors qu'en fait, elles font des mono gros repas, c'est-à-dire que le matin elles déjeunent pas parce qu'elles ont pas faim, le midi elles mangent à l'extérieur mais pas des quantités énormes, et le soir elles mangent ce qu'il y a, et puis voilà. Mais finalement, ce sont pas des gens qui mangent beaucoup de calories, et elles devraient déjà s'attarder sur les repas qu'elles skippent, en fait, et souvent le petit déjeuner, et donc voilà. Bon, c'est pas vraiment comment dire. C'est pas vraiment, je sais, quelque chose que vous regardez, parce que c'est pas forcément quelque chose que vous rencontrez dans votre quotidien. Enfin, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont amenés à vouloir prendre du poids hors masse musculaire, c'est-à-dire qu'ils veulent un petit peu s'étoffer. Enfin, voilà, garder à l'esprit que l'activité physique, le sport et particulièrement la musculation, c'est une des meilleures réponses. Hein. Donc, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Et c'est la meilleure réponse, que vous soyez un homme, une femme, peu importe, pour augmenter son poids de manière harmonieuse. La musculation couplée à une nutrition qui va réparer, reconstruire et rebâtir un petit peu votre physique jour après jour, c'est quand même la meilleure solution. Il y a pas vraiment de technique pour rester comme ça en mode sédentaire, en mangeant un peu trop et en ayant un physique acceptable, quoi. En fait, ce qui peut conduire à terme, si on fait que la nutrition hyper dense, c'est justement avoir un physique pas harmonieux. Alors certes, sur la balance, ça sera bien, mais dans quelques années, votre médecin, il vous dira, bon, il est temps de perdre ce poids, quoi. Donc, c'est pas forcément quelque chose à rechercher. Allez, on passe à la suite avec justement cette idée de faire des squats pour ne pas payer ses transports. Donc c'est un article que j'ai trouvé pareil sur un, alors je sais plus le nom du magazine. Donc je cite, hein, c'est une idée plutôt éclairée pour pousser les gens à faire plus de sport dans la ville de Cluj-Napoca en Roumanie. On vous offre un ticket de bus si, en échange, vous faites 20 squats. Depuis la mise en place de cette initiative, près de 1525 tickets de bus ont été distribués. Les habitants de Cluj-Napoca sont donc totalement conquis, et je sais même pas si on prononce le nom de la ville comme ça, et ce, enfin de la ville ou du pays, j'en sais rien, et ce, quel que soit leur âge et leur condition physique. Alors moi ça me fait rire parce que c'est, bah, je valide à mort, hein. Sauf que là ils vont pas tarder à se prendre des vagues de comités, de machins, de, tu sais, vous savez les comment on appelle ça, les groupes. Les collectifs, les gens qui ne peuvent pas faire de squat vont protester parce que ils payent, donc il faut trouver un truc. Donc ceux qui peuvent pas faire de squat, il faut leur mettre des haltères pour qu'ils puissent faire des curls, enfin j'en sais rien, mais en tout cas j'adore l'idée, je la trouve saine. Et en même temps, ça nous éclaire sur notre côté pas diabolique, mais c'est vrai que quand on dit un truc, c'est gratos, si tu fais ça, vas-y. Et en fait, est-ce que c'est une bonne motivation ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une motivation qui fonctionne, parce que si tous les jours, admettons, on prend un exemple, tous les jours, vous prenez deux fois le métro, le bus, enfin, je sais pas combien de temps ça dure. Alors si, c'est marqué. Ce concept original s'appelle le ticket santé. Il est valable pendant 7 jours sur l'ensemble du réseau de transport de la ville. Bon, bah, c'est cool. Moi, ce que je trouve génial avec ça, c'est que quelqu'un qui travaille tous les jours et qui prend tous les jours les transports, il se met à faire des squats et puis il paye plus, quoi. Donc là, on est mieux que tout là, hein, sur le budget, le budget transport, c'est génial. Et en fait, vous allez me dire, ouais, mais attends, comment ils font ? Ils disent juste on a fait les squats. Non. En fait, il y a sur le distributeur, vous avez une petite caméra qui vous voit, qui vous snipe, alors qui vous regarde, je sais pas ce qu'elle est. Mais, et donc, du coup, vous faites des squats devant, il y a un petit rond au sol, un repère, vous vous placez sur le repère, la petite boîte vous regarde, alors elle est pas plein pot comme ça, à côté de l'abribus où tout le monde est assis, c'est un petit peu dans le coin. Comme ça, vous êtes peinard. Et en fait, elle vous regarde, et puis elle compte, en face de vous, 1, 2, 3, machin, jusqu'à 16, 17, 18, enfin, il y a marqué 16, là, donc jusqu'à 20, pardon. Et donc, à la fin, ben, votre petit ticket sort et vous êtes peinard. Mais je trouve ça génial. C'est génial, mais je pense que ça va être rapidement... Alors peut-être qu'en Roumanie, ils vont laisser les gens tranquilles. Mais mettez ça en France, vous avez de suite quelqu'un qui va vous dire ouais, « inégalité, c'est la discrimination pour ceux qui peuvent pas en faire ». Mais quelque part, on s'en fout. On peut pas sauver tout le monde, d'accord, je sais, c'est triste et tout, mais on peut dire, ok, les gens qui peuvent, faites-le, les gens qui peuvent pas, on va trouver autre chose, mais il faut pas, j'ai peur qu'en France, si on mette un truc comme ça, ça soit vu d'un mauvais œil, hein, qu'il y ait les journalistes qui se mettent à fond dessus. Moi, je trouve ça génial. En plus, vous avez 2-3 images, il y a Papy qui le fait, et en plus, il fait bien, hein, il a le dos qui va bien et tout. Bon, il avait un peu les talons, et il a les pieds un peu serrés. Mais bon, tout de même, il fait ses flexions. Les nanas le font, elles ont le sourire et tout, c'est cool. Je trouve ça cool. Enfin, moi, je suis pour ce genre de choses. Et on pourrait l'étendre à pas mal d'autres trucs. On pourrait l'étendre à par exemple, c'est tout bête. Vous voulez la place à côté, là, directement à l'entrée du magasin? Elle est disponible contre 20 squats. Et en fait, ça, vous voulez pas vous garer proche, vous voulez pas vous garer loin. Si vous voulez vous garer proche, il y a 20 squats. Alors je sais, il y en a qui vont dire, mais c'est de la torture et tout. On oblige les gens, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bah ouais, mais ça peut être une bonne solution. Enfin, on se rend pas compte à quel point tout ce qu'on voit autour de nous nous pousse à être en surpoids et personne ne râle. Donc c'est-à-dire que personne ne râle. Moi par exemple, quand j'habite dans le sud de la France et il y a un énorme centre commercial dans le centre de la ville où j'habite. Et ce centre commercial est sympa. Bon, moi j'y vais pas, mais il est sympa. Il y a des boutiques sympas, etc. Mais par contre, si vous n'y prêtez pas attention, il n'y a que des escalators. Il y a que ça. Le seul escalier, il est perdu au fond, faut aller le chercher. Enfin, on le voit pas, quoi, au premier coup d'œil. C'est-à-dire que si on connaît pas les lieux, on n'y pense pas. Donc en fait, on m'impose, moi, de pas faire du sport. On m'impose de prendre l'escalator. Et moi, j'ai pas le droit de m'indigner. Par contre, une personne à qui on obligerait de prendre les escaliers... Je parle encore une fois de personnes valides. Hein. Je parle pas de personnes en fauteuil roulant. Enfin, voilà, on est d'accord. Je parle de personnes valides. Et... moi, on m'impose des solutions de confort, un petit peu comme, vous savez, les tapis qui avancent tout seuls à des endroits où... Regardez bien, il y a des endroits où vous n'avez pas l'option escalier, vous avez que l'option escalator. Et moi, ça me dérange aussi. Donc la solution, c'est quoi? C'est de prendre les escaliers qui descendent quand vous montez, comme ça, vous montez en Stairmaster, et là, vous brûlez pas mal de calories. Mais bon, vous passez pour un con, et puis... Et puis bon, bref, personne le fait parce que vous prenez tous ceux qui descendent en pleine poire, quoi. Mais bon, bref, moi, ce genre d'initiative, je trouve ça cool. Ça doit coûter un pognon quand même, parce que ils ont dû mettre. Souvent, on dit ouais, la Roumanie, machin, c'est quand même des endroits où personne n'a envie de vivre. Bah, je sais pas, mais là, le concept me semble quand même assez sympa. Et si 3, 4, 5, 6 fois par semaine, vous prenez les transports en commun et que vous voulez... Alors, ça déjà, c'est un budget. Donc là, ça deviendrait gratuit. En plus de ça, vous faites du sport. Donc, vous limitez un petit peu votre sédentarité. Allez, OK, vous allez me dire, c'est 20 squats, c'est pas grand-chose. Ouais, mais pour des personnes qui font rien, 20 squats, c'est quand même le début du machin. Encore une fois, en France, vous mettez ça... Au bout de 15 jours, il y en a un qui fait un infarctus parce que je sais pas quoi. Tous les journalistes vont dire, à cause de ça, le mec est mort. Bon, c'est bon, ça disparaît, quoi. Alors que ça se trouve, il l'aurait fait en se levant de sa chaise au bureau. Mais globalement, en France, on est dans cette optique-là où ça passerait jamais, quoi. Ça passerait jamais. C'est bien dommage, hein, parce que moi, je pense que ce sont des genres de... Encore une fois, en France, ça passe pas. Par contre, le truc énorme avec le fast-food ou la pâte à tartiner sur l'abribus en format, je sais pas combien, mais énorme, ça, il y a aucun problème. Quoi. Ça ne conduit pas à des mauvaises conduites alimentaires. Vous inquiétez pas. C'est toujours ça, moi, que j'ai trouvé bizarre, de demander à quelqu'un ou à quelque chose ou un organisme qui propose une solution santé de se justifier. Attention, c'est risqué, hein. Vous savez, un petit peu comme pour les régimes, quand vous orientez un peu une personne sur le mieux manger, sur des réflexes alimentaires de meilleure qualité. Attention, hein, faut pas faire n'importe quoi, il y a des risques et tout. Il y a des risques, mais attends. Moi, quand j'allume ma télé, entre la première et la deuxième partie d'un film, je me tape des pubs sur tout un tas de choses, de produits transformés et tout, et eux, il y a rien, en fait. On demande rien, il y a pas de risque. Enfin, si eux ont le droit de le faire, je veux dire, moi, en parlant de brocoli, j'aurais pas le droit. Enfin, vous voyez l'hypocrisie du truc. Donc, c'est comme ça, il faut l'accepter, hein. Enfin, mieux vaut se former soi-même et être indépendant de ce côté-là, parce que il y a des endroits où ça verra jamais le jour, mais je trouve ça quand même bien. Je le répète encore une fois, parce qu'il faut quand même combattre le fléau de l'obésité, et même si 20 squats par jour, c'est pas énorme, ça peut donner confiance en eux à certaines personnes, et puis se dire, bon, bah, peut-être que j'ai envie d'en faire un peu plus, ou... Et ça sera toujours positif, quoi. Ça sera toujours positif. Et puis, il y a le côté gratuité derrière que j'adore, parce que le côté gratuité, on sait que les gens, si on leur dit... on le voit bien, par exemple, dans les voitures, dès que le bioéthanol est arrivé... et de faire son plein moins cher, etc. Même si ça consomme plus, enfin, en fin de compte, ça revient moins cher parce que la voiture, le plein coûte moins cher. On voit que des tas de bagnoles essence aujourd'hui sur le marché de l'occasion, elles sont converties à l'éthanol. Donc on voit que l'argent passe avant avant tout quoi. C'est normal, hein. Enfin, c'est normal, oui et non. Hein. C'est normal, mais après il y a quand même des problématiques. Moi je vois par rapport au, vous savez quand les gens disent ouais mais j'ai pas l'argent de bien manger et que les gens ont un iPhone ou ils ont, enfin je sais pas, des choses de valeur un petit peu qui coûtent cher et tout. En fait c'est pas qu'ils ont pas les sous pour bien manger, c'est qu'en fait pour eux bien manger n'a pas suffisamment de valeur par rapport à d'autres choses où ils préfèrent mettre leur argent. Souvent, hein, c'est pas, je vous parle pas des SDF ou des gens qui sont au chômage et qui ont une toute, enfin au chômage, hein, ils attendent de trouver du travail logiquement, mais je parle pas des gens qui ont vraiment des petits revenus, qui n'ont rien. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'iPhone, ils sont vraiment en mode, j'ai pas du tout de thunes, quoi. Donc eux, oui, c'est un réel problème. Il faut essayer de solutionner ça en trouvant un travail, en, je sais pas, mais en essayant d'aller de l'avant. Mais je parle des personnes qui font un budget, donc les personnes moyennes qui font un budget et dont le budget nutrition ne doit pas dépasser tant. Et j'ai toujours eu un problème avec ça. Mon budget course ne doit pas dépasser tant. Mais en fait, c'est quand même étrange de voir que le budget nutrition devient comme un budget vacances ou comme un budget, je sais pas, sortie ou c'est. On voit la bouffe comme un truc, vous savez, comme un plaisir en fait. Mais c'est pas normal. La nutrition de globale, hein, je parle pas des moments plaisir, mais la nutrition, c'est quand même un carburant. Pour moi, c'est comme de me dire, je vais aller là-bas où l'essence est pas chère parce que, je sais pas moi, il nettoie jamais les cuves ou c'est de l'essence premier prix, j'en sais rien. Je préfère. Enfin, en fait, il faut avoir des calculs long terme. Mettre de l'essence un peu plus chère, c'est peut-être si elle est de meilleure qualité, c'est préserver son moteur ou l'huile. Vous savez, l'huile qu'on met lors d'une vidange, de voir deux trucs. Alors le premier prix c'est tant, l'huile de bonne qualité c'est 10 € plus cher. Ouais, mais en fait, ça vous permettra d'avoir un moteur qui tournera plus longtemps, d'une bonne façon et surtout d'avoir moins d'entretien, d'avoir moins de panne et compagnie. Donc globalement, c'est un peu ça la nutrition de bonne qualité, enfin en tout cas quand on essaie de l'avoir, c'est peut-être un investissement aujourd'hui pour éviter des futures problématiques quoi en fait. Hein. Mais bon, les gens ne voient pas ça comme ça aujourd'hui. Alors vous oui, hein, je le sais. Mais les gens quand on leur parle de nutrition, c'est argent, plaisir. Donc avec le minimum d'argent, ils veulent le maximum de plaisir. Donc c'est quoi ? Ben, de l'alimentation transformée, vu qu'elle est moins chère que l'alimentation brute et saine, et meilleure au goût pour eux. Donc forcément, la question, elle est vite répondue, comme on aurait dit il y a quelque temps. Je m'arrête sur ce sujet. En tout cas, génial la boîte Visio qui vous filme en train de faire des squats contre un ticket. Moi, je serais pour qu'on le mette sur d'autres trucs. Je sais pas, mais d'autres trucs. Voilà, il y a certainement d'autres trucs. La place proche, voilà, les choses comme ça. Je trouve que c'est sympa. Bref, allez, je continue parce qu'il y a la question de l'auditeur qui est très courte, mais qui va susciter certainement une réponse un peu longue. Donc, j'avance. Alors cette question, question anonyme comme d'habitude, vous savez dans les notes là de l'émission, comme vous l'avez dans votre boîte mail également, si vous avez pas regardé, vous avez normalement le lien avec toutes les notes de ce podcast. Donc vous avez une image du podcast, vous cliquez dessus, vous accédez à la page avec toutes les notes. Et donc vous avez un onglet dans les liens à suivre où il y a marqué « Posez votre question ici ». C'est un formulaire anonyme, il n'y a pas de nom, pas d'email. Moi je vous trace pas, je m'en fous. Le but c'est que vous puissiez être le plus libre possible pour poser des questions qui, voilà, vous n'osez pas le dire sous un pseudo ou sous votre vraie identité parce que c'est un peu dérangeant ou peu importe. Bref. Ou parce que vous avez une certaine, ça arrive hein, parfois, les gens me le disent, ils me disent bon ben j'ai une petite présence sur Internet, j'ai pas envie de parler de ça publiquement, donc voilà. Et ça arrive des fois que ça soit des influenceurs, que ça soit des personnes un peu plus connues, un peu moins connues, mais peu importe, ce sont des personnes qui veulent rester anonymes. Donc la question étant anonyme, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'adresse email, donc soyez tranquille de ce côté-là. Moi en tout cas, je récupère rien dessus. Je vois pas comment je pourrais faire à part votre question, quoi. Évidemment, si vous marquez votre nom, ça veut dire que vous voulez pas être anonyme. Donc, bonjour Théo, je suis en train de changer ma nutrition et je voulais savoir si c'était recommandé d'être à environ 1600 calories par jour. Est-ce que la restriction ne va pas forcer mon corps à stocker? Je mesure 1m80 pour 85 kilos avec du gras essentiellement sur la ceinture abdominale. Merci pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Ben, merci à toi de me suivre. C'est très sympa. Bah déjà en fait là tu pars sur une diète qui existerait par défaut pour perdre du poids. Donc effectivement si tu mesures 1m80 pour 85 kg, t'as de grandes chances en faisant une diète à 1600 calories de perdre du poids, parce que c'est un tout petit apport calorique, et en faisant 1m80, même ton métabolisme basal, donc c'est-à-dire ton métabolisme hors activité du quotidien, devrait se situer à peu près en faisant 1m80, 85 kg, mais je connais pas ton taux de gras, mais globalement t'es plutôt entre 1007 et 2000, hein, avec une fourchette un peu large. Je te parle hors activité, le métabolisme de base c'est celui qui est juste pour fonctionner, hein, c'est tout. Donc déjà tu serais en dessous de ça, et moi j'aime pas trop aller en dessous de ça, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on a un petit peu l'organisme qui se met à se mettre un petit peu en mode économie, tu sais, en mode éco, un peu comme dans une bagnole ou électrique où t'as tout le chauffage, la clim, l'aération, enfin tout qui se coupe pour préserver l'autonomie. Là c'est un petit peu la même chose. Ton corps, quand il arrive comme ça à une réduction calorique un peu trop brutale, un petit peu trop forte par rapport à ses réels besoins même physiologiques de base, eh ben il va couper certains interrupteurs pour faire des économies, et selon les interrupteurs qui coupent, eh ben ça peut être de la fatigue, ça peut être de la perte de motivation, enfin bon bref, tu peux avoir des troubles digestifs, peu importe. Bref. Donc toi, ta problématique, c'est que si tu descends à ça, tu te demandes si ne va pas forcer ton corps à stocker. Ben en fait, ce que tu expliques là, en tout cas ce que tu résumes en quelques mots, c'est un processus un tout petit peu plus long que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que demain tu vas réduire à 1600 que tu vas forcer ton corps à stocker. Au début, tu vas perdre un peu, et en fait, si tu restes dans ce schéma où tu es relativement pauvre en calories par rapport à tes besoins même de base, ton métabolisme va devoir s'adapter à cette nouvelle contrainte. Et pour s'y adapter, comme je viens de le détailler là, il va couper des interrupteurs, en fait baisser l'intensité, baisser le feu, baisser le gaz, réduire un peu le chauffage entre guillemets, si tu peux avoir ce genre d'image, pour s'adapter à au bois que tu fournis à ton corps, hein, tout simplement. Et ce qui va se passer, c'est que ton métabolisme qui brûlait un certain nombre de calories va se mettre à en brûler un petit peu moins. Donc du coup, sur le moyen long terme, c'est plutôt long que moyen d'ailleurs, ton corps va se remettre à stocker à des apports caloriques plus faibles. Et oui, puisqu'en fait t'es passé, c'est comme si tu réduisais ta cylindrée en fait, hein. C'est une cylindrée brûle pas mal quand elle a beaucoup de cylindres, et si tu réduis, tu lui enlèves un cylindre par semaine, bah ça va brûler de moins en moins. Et ben là c'est un peu ça, mais encore une fois, ça c'est uniquement si tu réduis fortement, que tu continues à réduire, donc à rester dans ce schéma là sans recharger, sans arrêter d'être au régime tout simplement, et après tu te remets à manger à fond. Mais la problématique, c'est que ce qu'on peut entendre à droite à gauche, c'est toujours la même chose, c'est que ces contradictions vont induire les gens à rester finalement gros, gras, avec du bide. Parce qu'ils vont se dire, ouais mais attends, si je fais un régime, je vais ralentir mon métabolisme, donc encore plus stocké, donc ça va être pire que mieux. Ouais, attends. Ça n'arrive qu'après. C'est pas tout de suite, hein. Au début, un régime, ça marche, hein. Et même quand tu réduis fortement, ça fonctionne. Moi, alors, il y a tout un pan de personnes qui dit attention au métabolisme bloqué, tout ça. Ouais, non, mais attendez, les gars, vous parlez de métabolisme bloqué à des gens qui n'ont même pas encore commencé leur régime. Et si vous commencez. En fait, chaque période a sa problématique. La problématique actuelle des gens, c'est surpoids. Donc, surpoids ou gras. Donc, on perd du poids. Après va s'installer une autre problématique. Comment éviter de bloquer son métabolisme ou de trop le ralentir? Ok, il y aura d'autres solutions, mais pour l'instant, laissons les gens déjà perdre du poids. Après, il y a des solutions, hein. Enfin, je veux dire, c'est assez rare, hein, les personnes qui disent mon métabolisme est bloqué, j'ai repris du poids. Mais attends, t'as repris du poids. Mais qu'est-ce que tu manges après ton régime? Est-ce que parce que avant il y avait pas de coupable. C'est-à-dire que les gens disaient le régime, les problèmes du régime, c'est que ça fait l'effet yo-yo parce que tu te mets au régime, tu perds, puis après tu remanges comme avant et tu reprends. Bah c'est normal, t'as remangé comme avant, donc t'as repris du poids puisqu'il n'y a pas de magie de toute façon. Si tu reprends les mêmes mauvaises habitudes qu'avant, t'auras les mêmes mauvais résultats qu'avant. Et un jour quelqu'un a dit ah mais on va trouver une réponse à ça. Ça s'appelle le blocage du métabolisme, le ralentissement du métabolisme. Donc du coup, c'est plus de la faute des gens, c'est de la faute de leur métabolisme, donc de la faute de leur régime. Donc ils ont fait une mauvaise chose, ils ont fait un régime. Donc en fait, ça conduit les gens à plus rien foutre. Non, un régime fonctionne. Donc déjà, on se met pas d'entrée de jeu en hypocalorie profonde. On se laisse un petit peu de marge de progression. Donc c'est pour ça que moi je dis aux gens, vous avez deux solutions. Soit vous êtes des warriors et vous aimez que ça aille vite. Donc vous faites un régime fort avec de l'activité physique et tout, vous avez des gros résultats, mais vous êtes capable de vous rendre compte que vous pouvez pas tenir ça longtemps, donc vous rechargez régulièrement pour essayer d'équilibrer un peu les entrées-sorties, etc. Soit il va y avoir la stratégie un petit peu plus intelligente pour le commun des mortels qui a un rythme de vie un peu soutenu mentalement, donc qui peut pas se permettre d'être complètement à l'arrache au niveau du régime. Donc là, ces personnes, elles vont commencer par réduire un peu leur apport calorique au quotidien, faire du sport si elles en faisaient pas, attendre de voir ce qui se passe, puis quand ça stagne, de jouer plutôt sur une autre marge de progression, par exemple de jouer un petit peu plus sur du cardio training, ou alors d'essayer de réduire un petit peu la diète, mais de se garder une marge, de pas passer directement du niveau je mange mal au niveau je suis en fin de diète de sèche extrême, quoi. Et donc, du coup, mais ce qui va faire réellement la problématique, c'est si tu fais un régime fort, que tu recharges jamais, que tu restes longtemps comme ça, que tu vois les symptômes de fatigue et tout arriver, mais que tu continues à persévérer parce que t'as pas encore tes abdos, alors tu veux continuer. Non. En fait, quand on fait un régime comme ça, alors toi, globalement, 1m80 pour 85 kilos, je peux te dire, je sais pas, je t'ai jamais vu, mais globalement, si t'es très sérieux en muscu, etc., tu peux viser être bien physiquement entre 75 et 80 kilos. 80 kilos avec les abdos apparents, je peux te garantir que t'as un sacré niveau. T'as un sacré niveau que peu de personnes ont. Je te parle d'un niveau de sèche assez, un taux de gras assez bas, sans parler de sèche extrême avec des veines sur les abdos. Je te parle d'abdos bien apparents, de haut en bas, mais pas une sèche compétition. Donc 1m80, 80 kilos, il y a peu de personnes, je te garantis, qui auront ce rendu-là avec une pratique, on va dire, standard de muscu, etc. Donc vise plutôt avec une masse musculaire bien dessinée et tout entre je sais pas peut-être 75, 76, 77 déjà tu auras un très bon niveau. Donc ça c'est pour te donner un repère, mais après il faut que tu saches une chose, c'est que si tu n'as pas une bonne masse musculaire sur les abdos, si tu n'as pas une bonne masse musculaire tout court, tu ne t'attends pas à être ultra sec après un régime quel qu'il soit 1600 ou 2000, peu importe, je sais pas le régime que tu vas faire, tu auras jamais les résultats attendus. Donc pars de ce principe-là. Ta première perte de graisse, ne sera pas satisfaisante. En fait, c'est quand tu auras fait 2-3 allers-retours, c'est-à-dire que le premier, ok, tu perds tes joues, tu perds ton double menton, tu perds ton gras sur les pecs. Si tu le perds pas, c'est que tu n'y es pas allé assez loin d'ailleurs. Tu perds les zones grasses disgracieuses. Tu sais, l'excès. Mais t'auras jamais, tu sais, la sangle hyper dure, sauf si t'es une petite exception, et tant mieux pour toi. Mais t'auras jamais cette sangle hyper dure que tu désires tant. Celle-là, elle va venir pas tout de suite. Elle va venir par déjà une sangle travaillée régulièrement, une sangle abdominale, hein, mais également des allers-retours entre période de maintien, où tu te réalimentes un peu, justement, pour pas défoncer ton métabolisme, et période où tu vas te restreindre un petit peu pour aller grignoter le tour de taille, le petit pneu que tu accumules depuis des années. Et en fait, en faisant des allers-retours, donc premier régime, t'auras des abdos, mais ça sera pas encore ce que tu veux. Ok, tu te maintiens un peu, tu remanges un peu plus à ta faim, sorti de ton régime, et puis tu reprends un régime peut-être 6 mois après, pour l'été, etc. Et là, tu te rends compte que bah, t'as plus de facilité à perdre du poids, tes abdos se voient un peu plus facilement, plus rapidement. Et c'est normal, il y a un petit peu de volume qui s'est créé, il y a un petit peu d'habitude, de circulation qui s'est faite aussi sur la zone, et tu verras que ta sèche, elle va être un petit peu mieux. Et puis au bout de la troisième, c'est encore mieux. Et tu verras qu'à long terme, finalement, bah, t'auras de moins en moins besoin de faire de sèche parce que ton physique va de plus en plus rester comme tu l'aimes tout le temps, même en mangeant à ta faim. Et c'est ça en fait la clé, c'est que beaucoup de personnes pensent que ça sera toujours aussi difficile. C'est faux. Et ça, ce sont des gens qui veulent un peu se faire enfler les chevilles, qui vous disent ah oui, je sais, il faut de la motivation, de la volonté, etc. pour tenir sur les années. Mais c'est des conneries. La volonté, il la faut juste au début pour se lancer. Après, en fait, ce sont des obstacles qu'on passe, et au fur et à mesure des années, les murs deviennent de plus en plus bas. Donc ça demande de moins en moins d'efforts. Ce qui est dur au début, c'est d'avoir les premiers résultats, hein, d'avoir les premiers muscles qui sont bien dessinés, les premières première strie apparaître sur certains mouvements, les abdos bien apparents si on les a jamais eus. C'est ça qui est difficile après, le maintenir. Bon, il y a des gens qui tombent dans le confort, hein, qui ont plus envie de faire de diète, etc. Ils font que s'entraîner, ils disent, tu sais, c'est les années, il y a un phénomène qui se crée ou ça part plus. Non. C'est juste que ce sont des personnes qui ont oublié qu'il fallait fournir quand même un petit peu d'effort et pas s'avouer vaincu tout de suite. Mais les efforts sont moindres par rapport aux efforts du début. Donc rassurez-vous, pour ceux qui démarrent aujourd'hui, qui m'écouteraient, logiquement, si vous vous entraînez correctement, et que vous savez manger correctement, c'est le démarrage le plus difficile, et c'est pour ça que j'avais fait un long cours en audio sur mon site, sur toutes les étapes, le process, qu'est-ce qui se passe la première semaine d'entraînement, même la première journée d'entraînement, jusqu'à qu'est-ce qui se passe après 10 ans d'entraînement. Je vous donne la philosophie de vie de ceux qui tiennent 10 ans, et d'ailleurs c'est pas des trucs genre volonté, motivation, hein, c'est pas du tout ça, ce sont d'autres facteurs, allez voir hein, sur le site, c'est en ligne. Et justement, pour moi, c'est plutôt en fait de l'inertie, c'est-à-dire que c'est difficile à déplacer au début, mais après quand ça a sa vitesse un peu de croisière, si évidemment on maintient le rythme, ça va quoi, ça se tient. Mais évidemment faut maintenir le rythme, faut pas s'arrêter 2 ans, reprendre 2 ans, s'arrêter 6 mois, reprendre 1 an, c'est pas bon ça, parce que on perd l'inertie et on perd justement la progression quoi. Donc bon, je m'arrête ici. Si vous avez envie d'en savoir plus justement sur les différentes étapes, etc., ou même si vous avez envie de vous entraîner au pied de votre lit, parce que vous vous rendez compte qu'en ce moment, vous faites qu'une ou deux séances par semaine, alors que vous pourriez en faire 5 ou 6 si vous étiez capable de vous entraîner sur des petits mètres carrés, hein, quelques mètres carrés, pardon, au pied de votre lit. Enfin, moi, vous verrez sur la vidéo, il y a vraiment un petit espace. Hein. Eh ben, allez voir le lien. S'entraîner dans sa chambre, comment on fait? Vous avez le plan complet en entraînement en PDF, comme ça vous pouvez l'avoir sur votre téléphone dans votre poche, plus tous les exercices en vidéo filmés avec ma logique et tout ça. Et puis sinon, on se retrouve pour les autres podcasts, ceux que vous avez peut-être en retard sur votre plateforme d'épisode préférée. Et très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose moi personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je. Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours hein, que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.